On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Et maintenant, Jean-Luc te pose des questions sans filtre sur Nostalgie.
Ah ouais, les questions sans filtre. Je t'ai vu rêver sur VIP. Il y a eu quand même beaucoup de collaborations. Fuguin, oui, c'est le Big Bazar, Monsieur Fuguin. La collab avec Sardou, moi, je ne l'avais pas. Et j'ai trouvé ça tellement, je trouve ça tellement mignon. Vous appelez de temps en temps avec Michel Sardou?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout,
ça
non.
Ça te manque ou pas? Toi qui aimes bien les bandes, ça te manque?
Mais Michel n'est pas un mec de bande.
Ouais, c'est un vieux solitaire.
C'est un vieux sanglier, ouais.
C'est ça. C'est un bougon alors que toi tu es ouvert à la vie.
Mais c'est un bougon, mais en 2000 j'ai dû réaliser, bien grand mot.
Oui.
Je lui ai fait des chansons, d'accord, on a fait un album.
Oui.
Et pour ça, il y a un moment on est parti il m'a emmené à Courchevel ou quelque chose comme ça, qui me ressemble pas des masses, mais on s'est retrouvé à déconner exactement
comme
on était à 20 berges.
Et ça a sorti quoi comme album? Je n'ai pas la référence des
années. Ça s'appelle Français. Il y a un album qui s'appelait Français.
Ouais.
J'étais pas malade du titre, mais
ouais.
Français.
Et il y avait quoi à l'intérieur de cet album que nous pouvons connaître ici à Nostalgie? Je veux pas te piéger, hein.
Non, non.
Mais apparemment, non, mais ça t'a pas hyper marqué.
C'est pas le meilleur album de Michel. C'est arrivé un moment où il avait plus beaucoup envie.
D'accord. Déjà.
Ouais, ça a été plusieurs fois, oui. Puis après, il reprend. C'est un personnage formidable. Mais ce que j'aime chez Michel, c'est que c'est un fils de saltimbanque.
C'est exactement ça. Jackie Sardou.
C'est un fils de saltimbanque.
Fernand Sardou, son papa, c'est ça?
C'est Fernand Sardou.
Ouais, hein, c'est ça. Alors, en parlant des bougons, il y a Sardou et puis il y a Eddie Mitchell qui continue sur la route.
Un gros bougon aussi.
Ouais. Ah, non, mais là, tu côtoies des bougons quand même. Ça se passe comment avec Eddie Mitchell? Comment vous rencontrez? Comment vous échangez?
Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était dans un truc qui s'appelait le président Roscoe ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Et c'est lui qui fait « Alors, Fuguin !» Et j'étais au tout début, quoi. Roscoe, c'est vraiment le tout début.
Oui.
Et puis, on se voit pas, moi. Tout ce que je sais de la vie d'Eddie Mitchell, je l'ai lu.
Mais il vient de sortir un album qui sonne quand même fort, fort bien et puis qui a un grand succès. Hein, on l'entend un peu partout. Hein.
Très bien.
Non, mais ça veut dire qu'il a encore la niaque. Il n'a pas obligatoirement la niaque d'aller sur scène et de faire des tournées parce qu'il en a ras-le-bol. Il veut jamais faire deux fois la même chose.
La plupart de ces brontosaures, on est des brontosaures, d'accord. La plupart, ils n'ont pas envie de tourner. Et moi, j'aime les gens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime les gens, j'aime les voir.
Mais toi, tu vas au-devant des gens. Eux sont plus casaniers, ils aiment bien être tranquilles chez eux, avoir leurs petits repères, alors que toi, sans arrêt, tu y vas, quoi.
Bah ouais, mais c'est vachement bien, ouais.
Non, mais quand on voit toutes tes tournées au mois d'avril, moi, je suis bouche bée, hein. Je suis vraiment bouche bée. La France, la Suisse, la Belgique, je trouve ça fantastique. On continue alors un peu moins bougon. J'aimerais bien que tu m'expliques la rencontre avec Johnny Clegg.
Rencontre avec Johnny Clegg? Moi, j'ai pas rencontré.
Apparemment, le chanteur a participé à Juin dans la rue.
Pas Johnny Clegg.
C'est pour Quentin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Johnny Clegg, alors? Il s'est passé quelque chose ou pas?
Je l'ai regardé à la télévision, hein.
Quentin. Il y a eu un concert au Havre et il a repris des choses de toi, c'est ce que me dit Quentin.
Ah,
parce que là, on est en train de...
Ça m'étonnerait bien.
On est en train de perdre un emploi, là.
Non, c'est pas Johnny Clegg. Je suis bien emmerdé parce que je...
Quentin.
Par qui je peux le remplacer, j'en sais rien.
Tu sais que tu vas repartir en Colombie très vite, Quentin. Tu as perdu ton emploi, mais tout va bien, Quentin. Ne t'inquiète pas, tout va. Une question...
Ouais, mais bon, là je vois passer sur le Havre, comme ça, comme si c'était un spectacle normal. Il y avait 800 personnes en scène.
Alors, je vais un petit peu plus loin. Il paraît que tu as chanté avec un certain Jean-Jacques Goldman. Est-ce que ça te parle, ce duo avec Jean-Jacques Goldman? J'adore quand il me regarde comme ça et que tu réfléchis dans ta tête, que tu te manges la lèvre inférieure en disant de quoi il parle.
Il y a un truc qui m'a échappé. Pourquoi j'aurais chanté avec Jean-Jacques Goldman? J'en sais rien.
Il est deux fois viré, deux fois t'as l'allé.
C'est peut-être
Il n'y a plus que l'aller simple en Colombie.
Non, c'est peut-être...
Il pleure, Quentin, tu sais.
C'est peut-être dans un... Les enfoirés, un truc des enfoirés.
Ah oui, alors ça c'est possible.
Ouais, donc c'est moi. Oui, je sais qu'il aimait bien Je n'aurai pas le temps, et on avait chanté Je n'aurai pas le temps.
D'accord, d'accord. Une question, juste, c'est un petit peu délicat. Tu disais que, on est dans les questions un peu sans filtre, tu as pensé à tout arrêter, évidemment, à la suite de ta fille, et que d'un seul coup, il y a eu une belle étoile qui est arrivée. Comment tu as la force d'y retourner quand tu vis ça dans ta vie, puisque tu es mort, tu l'as dit,
ouais.
À la disparition de ta fille, comment tu as la force d'y retourner?
J'ai avec moi un soleil qui est Sanda, elle est toujours soleil, et c'est elle qui me motive. Mais avant de retourner, j'ai fait des trucs différents. J'étais à la maison, plus personne voulait de moi, ils pensaient que j'étais tout seul colo, parce que il y avait quelqu'un qui m'avait préparé le terrain pour dire ça. J'ai mis en musique Edmond Rostand avec Chanteclerc, par exemple.
Ouais.
J'ai fait jusqu'au moment où on tombe sur des productions, c'est-à-dire j'ai besoin que quelqu'un me produise du spectacle. Et j'ai fait, ça a été probant un peu, puis moins probant, puis une catastrophe parce que je suis tombé sur un escroc qui m'a vraiment laminé. Jusqu'au jour où je tombe sur les deux Belges, la production qui s'appelle les deux Belges Productions.
Ouais.
Et depuis, je suis plus qu'un homme heureux, c'est un artiste heureux.
T'as retrouvé cette insouciance et cette...
C'est exactement, mais ça, avec Sanda, c'est pareil. Je lui dis, je vais retrouver ce que j'étais avant que je me mette en ménage. Et j'ai retrouvé, elle m'a donné la possibilité de le faire. Mais c'est un amour immodéré que j'ai pour ma femme. Donc,
ouais.
Ouais.
Et elle tombe, parce que tu le dis sur scène, elle tombe juste à un instant totalement imprévu, improbable. C'est une main tendue, c'est l'étoile du berger qui arrive.
C'est ma sirène.
Mais qui arrive quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, c'est ça?
Elle arrive, on vient de mettre les cendres de Lorette sous un olivier. Et je suis en Corse. Et là, il y a un mec qui me dit... Il y a une fille qui a Loria qui passe. Elle est bien, hein. Elle est bien. Et je suis allé à Loria. J'entends cette fille chanter.
Expliquons aux auditeurs ce qu'est Loria. C'est
Loria, c'est un restaurant
en Corse,
à Ilrousse.
D'accord,
Ilrousse. Qui n'existe plus, mais qui existait à ce moment-là. J'écoute cette fille blonde.
Qui n'a rien d'une Corse.
Elle est quand même roumaine un peu. Hein,
oui.
Et là, on commence à parler et on s'est jamais arrêté de parler pendant 3 ans. Juste, ça nous a amené dans une trattoria où on a continué de parler, mais en buvant du Valpolicella. Et en sortant, je l'ai raccompagné. Et dans la voiture, au moment d'arriver, on s'est embrassé fougueusement.
Et puis on s'est plus quitté. Mais ça a été une renaissance, hein, de toute manière, pour toi. Je suis sûr de ça.
Totalement.
Ouais.
Totalement. Je dois cette dernière partie de ma vie, je la dois à Sanda, dont j'ai dit au départ, et je le dis encore, mais je suis un peu loin de l'image, mais c'est ma sirène. J'avais coulé, j'ai touché le fond. Parce qu'on me disait, faut toucher le fond. Ça, j'ai pas tapé très fort. Ce qui fait que j'étais entre deux eaux et il y a une sirène qui est arrivée, qui m'a attrapé par le col.
Tu étais à marée basse et elle t'a mis à marée haute.
Elle m'a monté, elle m'a fait prendre ma première goulée d'air. Et je peux pas l'oublier. Mais d'ailleurs, je lui dis, c'est toi qui me fermes les yeux, mon amour.
Tu te vois chanter donc jusqu'au bout, voilà. Là, 83 ans, tranquillement, quand je te vois frétiller sur scène, je vois tous les gens, quand je vois le bonheur. Tu sais, c'est très difficile d'être rassembleur à aujourd'hui. Et quand je vois le bonheur, quand j'ai vécu le bonheur, moi, comme je l'ai vécu il y a 2 semaines à Bobino, j'ai trouvé une espèce de féerie, c'est-à-dire ce côté rassembleur des gens qui se regardaient avec les étoiles dans les yeux.
Est-ce que c'est rassembleur ou est-ce que c'est simplement parce que j'ai bien fait mon taf?
Mais non, c'est pas un boulot que t'as fait.
Attends, bouge pas. J'ai bien fait mon boulot. Mon boulot, je suis un préposé, moi. Dans la meute, je suis quoi? Je suis un préposé à l'imaginaire. Ah, je suis pas le seul. Tous les artistes sont des préposés à l'imaginaire du peuple en question. On ne fait que balancer des images, des trucs. Ça s'appelle un film, ça s'appelle un roman, ça s'appelle des chansons. Et les gens les prennent ou les prennent pas. Quand ils les prennent pas, on sait aussi, hein, que c'est, on n'a pas touché. C'est pas... Mais quand ils prennent, ils font leur. On est des décorateurs de leur vie. Et il décore avec des chansons, avec des films. Avec
Tu ne m'empêcheras pas, alors je t'ai laissé parler, de penser que tu es un être rassembleur sur toutes les générations. Et qui peut dire ça aujourd'hui? C'est-à-dire que nous, dans la voiture, avec papa et avec maman, on chantait, évidemment, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ils se sont croisés sur l'autoroute des vacances. Nous, avec nos enfants, c'est-à-dire que ça marche sur toutes les générations. Alors tu m'as coupé et je te recoupe de dire que qui est l'artiste aujourd'hui que tout le monde peut chanter sans aucun problème, à part Michel Fugain. Il y en a deux, trois, mais maximum. Tu ne m'empêcheras pas de dire qu'aujourd'hui, chacun a son écran, chacun a son réseau social, chacun s'enferme dans sa bulle, et toi, tu nous ouvres et tu nous rassembles tous ensemble. Quand je te reçois à la télé, quand je te reçois à la radio, tout le monde connaît Michel Fugain. Tu fais des karaokés géants pendant tous les étés. Tu ne m'empêcheras pas de penser ça.
Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai bien travaillé, quoi. Je me suis pas planté.
Mais ce que je veux te dire, ce n'est pas un travail pour moi. C'est-à-dire que tu as mis ton bide sur la table à chaque fois.
Ouais, oui, mais c'est une vie, merde. J'ai fait ça pendant 60 ans.
Ouais.
C'est une vie, c'est des choix, une façon de faire, c'est une façon de concevoir le métier. Mmh. Quand je fais le Big Bazar, c'est pour ne pas faire le métier tel qu'on me le proposait.
Mmh.
C'est toujours des choix qu'on fait. Et puis, il y a un moment où, parce que, oui, et ça je revendique, je suis un mélodiste. Mmh. Je suis un bon mélodiste. Mmh. Je fais des mélodies. J'ai gagné mon statut de musicien parce que les musiciens m'ont donné ce statut. Mmh. Ils m'ont permis. Ils ont reconnu que je pouvais être considéré. Quand j'ai commencé, je savais pas ce que c'était.
Mmh.
C'est pas parce que je grattais trois accords sur une guitare que ça faisait de moi un musicien. Mais les musiciens m'ont donné ce statut parce que quand ils écoutent une mélodie, ils écoutent les harmonies, ils écoutent tout. Et ils disent, putain, il est bon le gars.
Mais il y a un paradoxe quand même, parce que d'après ce que j'ai entendu, tu collabores plus avec la nouvelle génération, donc le phénomène de la transmission, tu l'as dans tes chansons.
Comment je collabore plus avec la nouvelle génération?
Pour l'heure, je vois plus trop de choses que tu fais avec la nouvelle génération. Tu penses quoi de cette nouvelle génération? T'as envie d'être avec eux, de leur proposer des choses?
Écoute, c'est marrant parce que hier, il y avait après aux signatures, il y a un jeune mec qui fait, je voudrais faire un truc sur la transmission.
Ouais.
Et puis, bien sûr, les gars, mais pour transmettre, il faut qu'il y ait un récepteur.
Mais toi, tu peux être cette personne-là, non?
Je peux être le transmetteur.
Oui.
Mais il faut qu'il y ait quelqu'un au bout.
Oui.
Tu vois, alors, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas envie qu'on leur transmette. Il y a plein de jeunes qui ont artistes, ou postulants artistes, qui n'ont pas envie de se retrouver devant leurs propres limites, car ça n'est jamais doux. La transmission, c'est tu te retrouves devant un cas de figure, le mec à qui tu transmets peut très bien se retrouver dans la position de « Ah merde, je suis en train de me gourer de chemin, c'est pas ça. Je vais peut-être faire un bon agriculteur ou je vais peut-être faire un bon vendeur. »
Non mais
pas...
quand tous les jeunes qui sont à The Voice quand même, tu en penses quoi?
Ça m'intéresse.
Alors pourquoi? Pourquoi ça t'intéresse pas? Parce que c'est des
chanteurs.
Oui, mais c'est une question de transmission aussi.
Non, c'est des chanteurs. C'est pas mon métier, c'est des chanteurs.
Ouais.
Chanteurs, ils ont besoin de chansons.
Oui.
D'accord?
Ouais.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui font des chansons.
Ouais.
Parce que les chansons, ça correspond à des peuples. Ça correspond à un peuple. Et quand tu as choisi de faire de la chanson pop ou populaire, tu parles au nom d'un peuple. C'est le peuple qui fait la chanson, sienne ou pas.
Ça correspond à un instant T de la société, là où elle en est.
Oui, mais il y a des grandes lignes. Hein.
Ouais.
Il y a des trucs. Il y a que le paquet cadeau qui change. Il y a que le papier qui est autour du cadeau.
Ouais.
Dans la boîte, qui est entouré par le papier cadeau, qui lui, c'est la mode. Dans la boîte, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même planète et c'est toujours la même humanité. Qui, elle, se transforme.
Donc tu décorelles le fond.
Pour qu'une humanité se transforme, il faut du temps.
Tu décorelles le fond et la forme.
Ah mais
le fond c'est toujours
la forme, tu peux tomber dans cette espèce de piège qui vient de ce que tu veux tellement être au goût du jour que tu t'approches de la mode. Quand la mode est réductrice, faut surtout pas y aller. Il faut continuer de faire ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je le vois sans arrêt. Et les gens disent ah, enfin des chansons qui chantent, des chansons qui raconte des trucs et il s'y retrouve. C'est et je continuerai. Après le fond, bah oui, il faut qu'il y ait du fond parce que tu peux pas passer 2 heures devant des gens en disant rien. Je vous chante rien.
Rien n'a changé. Tout a continué. Les poppies. Michel Fugain ce soir sur la route du week-end. Avant de laisser parler les auditeurs pour terminer cette heure magique, je le dis bien magique sur cette nostalgie qui nous prend fort au cœur. Je voudrais juste avoir une petite pensée. Quand je dis une petite pensée, c'est même une très très grande pensée pour celle qui n'a pas fait partie du Big Bazar, Mimi Matt.
Elle a jamais fait partie du Big, non ?
Parce que tout le monde l'a cru, tout le monde le croit encore aujourd'hui. Voilà, je pense à Mimi parce qu'elle fait toujours partie de cette troupe des enfoirés qu'on a vu il y a pas longtemps. Et c'est quand même un personnage fantastique. C'était un personnage qui s'est toujours battu. Et toi, qui prône le phénomène d'être toujours possible et toujours positif. Voilà, j'ai une pensée pour Mimi. Comment s'est faite la rencontre alors ? C'était à Nice, non ? Ou c'était où ?
À Lyon.
À Lyon, d'accord.
À Lyon. Ah, oui, la première fois, c'est ouais. Lyon. Ouais. Au Parc de la Tête d'Or, on était installés.
Ouais.
Et j'ai vu arriver Mimi, qui était encore, qui faisait ses études.
Oui.
Et elle me dit, je veux faire partie du Big Bazar. Ben, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle me dit, j'ai dit, écoute, pour l'instant, on n'embauche pas. Alors, tu vas continuer tes études.
Oui.
Tu vas faire, et puis après, on se revoit. Puis là-dessus, le Big s'arrête. Il y a un moment où je monte une école, un atelier école à Nice.
On en a parlé tout à l'heure.
Au studio de la Victorine.
Oui.
Et là, je vois arriver Mimi avec papa et maman. Et là, d'un seul coup, je me trouve avec Mimi. Elle est parfaitement justifiée.
Oui.
Et puis, ça a duré, 2-3 ans,
ouais,
comme ça. Et Mimi a été, ouais, mais il a fallu se bagarrer avec Mimi parce que elle avait tendance à se servir de son handicap. Ah, c'est strictement interdit. C'est interdit pour se faire des amis, pour exister, se servir de son handicap. Et non, Mimi, t'es une grande comme tout le monde. C'est ton talent qu'on veut, c'est pas ta taille. J'ai dû lui remonter les bretelles une ou deux fois. Et puis Mimi, elle avait plus besoin de moi. Elle a fait sa vie, elle est intelligente, elle est entêtée, et elle a fait quelque chose qui est strictement rarissime, quoi. C'est-à-dire, puisque les gens sont toujours interpellés par le handicap.
Bien sûr.
Elle s'en est foutue complètement et elle a trouvé les solutions pour arriver à Joséphine. Mais avant Joséphine, il y avait des trucs. Hein.
Évidemment.
Il
y a eu le petit théâtre de boulevard, il y a eu plein de choses.
Bien sûr. C'est très rare ce qu'elle a fait. C'est très exemplaire. Mimi est exemplaire.
On t'aime, Mimi. Voilà, c'était juste cette petite parenthèse.
Ah ben ça, c'est clair.
On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann. Tous les vendredis soirs, 19h-20h. Et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.